de Mauthausen à Leubel Pass. Le 8 août 1938, Heinrich Himmler ordonna de transférer quelques centaines de prisonniers de Dachau vers la petite ville de Mauthausen, à 20 km de Linz, en Autriche. Ce transfert avait pour but de fournir une main-d'œuvre gratuite à la carrière de pierre Wienergraben, située à proximité immédiate. Le camp principal de Mauthausen était constitué en tout et pour tout de 32 baraques entourées d'une enceinte barbelée sous haute tension électrique et de plusieurs miradors. Suite au nombre extrêmement élevé de prisonniers entassés dans l'enceinte principale, le commandant du lieu, Franz Zierreis, ordonna d'agrandir le camp vers le nord et l'ouest. Mauthausen était classé camp de catégorie 3 par l'administration SS. Cette catégorie de camp correspondait au régime le plus sévère. Les prisonniers envoyés à Mauthausen étaient voués à l'extermination par le travail. La population du camp était cosmopolite. Français, Russes, Yougoslaves, Polonais, Espagnols. Toutes les activités du camp gravitaient autour de la carrière de pierre et des constructions de tunnels, dont celui de Leubel Pass. En février 1944, se préparaient les parachutages appelés à être effectués pendant les nuits de pleine lune du mois de mars. Le samedi 26 février, Roger Hassan rencontrait des agents de l'intelligence service à Brive. Il leur remettait les coordonnées des terrains de parachutage concernés et recevait en retour des messages concernant chacun d'eux. Le lundi 28 février, Roger Hassan livrait à chaque responsable d'une équipe de réception le message correspondant à son terrain. En début d'après-midi, à Antonne, petit village proche de Périgueux, il fut intercepté par une patrouille de la Feldgendarmerie. Le jeudi 6 avril 1944, Roger Hassan faisait partie d'un convoi de 1800 prisonniers à destination de Mauthausen. Il fut notamment envoyé en commando de travail sur le tunnel de Leubel Pass.
On creusait le tunnel qui reliait la Yougoslavie et l'Autriche sous un col, ce qui évitait de monter à 1700 mètres, le tunnel étant à 1100 mètres, et ça raccourcissait le temps de trajet, ça allait beaucoup plus vite. Quand je suis arrivé, il y avait déjà un an que le tunnel était en cours de percement, il était même fini de percer, mais il n'était pas achevé, c'est-à-dire qu'il y avait deux étages. Donc moi je suis arrivé au moment où on commençait à placer la voûte sur l'étage supérieur avant de faire sauter le plancher qui séparait le fond du tunnel et le haut du tunnel. Alors tout le travail consistait pour certains à manier la pioche, la pelle, le marteau-piqueur, le béton pour faire les voûtes. Il y avait deux équipes de 12 heures par jour chacune, le jour et la nuit. Une semaine de jour, une semaine de nuit. Le matin, le lever se faisait vers 5 heures, pour se coucher vers 9 heures. Alors le problème, c'était celui d'une alimentation insuffisante pour des travaux assez durs. Alors c'est un problème de résistance, si on peut dire. Il s'agissait d'éviter de travailler. Un tunnel, c'est assez commode pour ça, parce que il faisait presque 2 kilomètres. Les SS n'étaient pas dans le tunnel, ils étaient en dehors. C'est essentiellement les capots qui... Les capots, c'était en général des droits communs qui encadraient les déportés. Et il y avait quelques... À l'époque où j'y étais, moi, en 44, il y avait quelques politiques qui modifiaient les rapports dans le travail. Alors, comme ils n'étaient pas toujours là pour voir, on arrivait à traîner la patte ici ou là quand c'était possible. Et quand il y avait des capots qui étaient là, eh ben, il fallait travailler. C'était dur parce que, avec pas grand chose dans le ventre, une pelle de terrassement ou une pelle de béton, c'est pas pareil que quand on a bien mangé. Il y avait cela, puis aussi une volonté de ne pas faire avancer les choses. Ça servait la guerre. C'était en principe pour faciliter le convoi des convois militaires. Le problème aussi, c'est celui des conditions, c'est-à-dire les hurlements périodiques des capots et overcapots quand ils étaient là pour faire travailler vite, vite, et surtout alors, parce qu'il n'y avait pas que le tunnel, l'hiver était long, c'est du mois de septembre jusqu'au mois de mai, il fallait déblayer la neige qui conduisait au tunnel. Les routes qui conduisaient au tunnel, il fallait déblayer la neige. Et alors là, c'était beaucoup plus dur parce que sous l'œil constant des SS et des capots. Et alors là, c'était les hurlements et toujours avec la matraque la plupart du temps. Mauthausen même, j'ai évité ce qu'on appelle l'escalier qui était d'une manière inutile. On faisait monter les déportés avec d'énormes blocs de pierre. Et beaucoup sont morts parce qu'ils n'arrivaient pas jusqu'en haut une, deux, trois fois.
Le 23 mai 1945, le Standartenführer SS Zierreis, commandant du camp de concentration de Mauthausen, était mortellement blessé par des soldats américains lors d'une tentative d'évasion. Le 24 mai 1945, Zierreis fut interrogé par les autorités.
Mon nom est Franz Zierreis. Né en 1903 à Munich, où ma mère ainsi que mes frères et sœurs vivent toujours. Je ne suis pas un homme méchant et me suis élevé uniquement grâce à mon travail. J'étais marchand de profession et durant les périodes de chômage, j'ai travaillé en tant que charpentier. En 1924, j'ai rejoint le 11e régiment d'infanterie de Bavière. Peu après, j'ai été transféré au département formation, puis à Mauthausen avec le grade de commandant du camp. Les camps placés sous mon commandement étaient Mauthausen, Gussen, Linz, Ebensee, Passau, Ternberg, Grossramming, Melk, Eisenerz, Bepern, Klagenfurt, Laibach, Leubel, Leubelpass, Enkel, Wiener Neustadt, Mittelberg et Floridorf, avec un nombre approximatif de 81 000 prisonniers.
Franz Zierreis parle d'officiers supérieurs SS, en particulier Müller, Paul et Kaltenbrunner. Müller était le chef de la Gestapo, Paul, inspecteur général des camps de concentration, et Kaltenbrunner fut le successeur de Heydrich à la tête du service de sécurité du Reich.
La garnison du camp de Mauthausen comptait 5000 SS. Le nombre maximum de prisonniers enfermés à Mauthausen fut de 19 800. Sur l'ordre du SS docteur Krebsbach, une chambre à gaz a été construite et camouflée en douche. Les prisonniers étaient gazés dans cette chambre à gaz. Toutes les exécutions étaient faites sur ordre du Reichsführer SS et chef de la police Himmler, l'Obergruppenführer SS Kaltenbrunner ou le Gruppenführer SS Müller. En outre, 800 prisonniers furent gazés au bloc 31 de Gussen. Jensch a également assassiné 700 prisonniers à Gussen, mais je ne sais pas où.
Les SS, ils avaient construit une espèce de tour de Babel.
Roger Hassan.
Et ils escomptaient beaucoup, voire de l'intolérance, du refus de l'autre. Et il faut dire que les mentalités polonais, espagnol, français, allemand, norvégien, hollandais, belge, italien, tout ce monde-là, dans un seul sac, ça crée des tensions. Et je crois que ça se désamorçait. Les Polonais qui étaient, ou les Ukrainiens par exemple, qui étaient à Mauthausen, c'était souvent des gens d'origine paysanne très fruste et peu habitués à la vie en collectivité comme ça. Et dans les conditions qui étaient, et sans parler des droits communs, des bandits féroces. Avec la différence de mentalité d'une part et quelquefois des modes de vie dans la vie ordinaire tout à fait autres que celles que l'on pouvait vivre. Quand par exemple, imaginez, là, on vous sert de la soupe, vous crevez de faim. Vous avez 150 gars qui attendent les uns derrière les autres avec la gamelle pour passer chacun son tour. La soupe, c'est un bouteillon avec de la flotte et puis dans le fond, il y a peut-être un peu de semoule, un peu de grain ou un peu... Alors, c'est un peu secoué, mais ça retombe toujours au fond. Alors, la grosse astuce, c'était d'essayer d'arriver au moment où c'était plus de la flotte, mais où il y avait quelques grains dedans. Alors, ah, le Polac, il est encore arrivé. Ou, ah, Françoise, pourquoi? Imaginez que un matraquage, il fallait passer par la porte avec des types qui vous matraquent derrière, ça se bouscule. Eh ben, c'était de la faute du Français ou de la faute du Polonais ou de l'autre que vous passiez pas. Alors, c'était ça qui créait des tensions. Ça pouvait pas être autre chose. Moi, j'ai connu des communistes polonais, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qui m'ont expliqué beaucoup de choses sur leur propre peuple. Par exemple, des gens qui étaient encore des serfs en Pologne avant la guerre. Vous aviez des féodaux qui possédaient 5-10 000 hectares de terre avec des serfs dessus. Et j'ai vu des Polonais d'origine plus modeste, des employés de bureau, être considérés comme des seigneurs par ces malheureux serfs d'origine qui, quand ils se trouvaient en face d'un type qui était bureaucrate, l'appelaient toujours « pan » et cérémonieusement, c'est-à-dire se conduisaient en face de gens qui leur semblaient supérieurs, même en camp de concentration, comme en face de leur seigneur. Alors, tous ces phénomènes de la vie telle qu'elle est, parler d'une vie idéale, fraternelle, ce n'est pas vrai. Mais surmonter dans ces cas les tensions qui en naissaient, je vous dis, des Polonais nous expliquaient, parmi eux, les plus lucides, et ça a créé, ça arrivait à désamorcer. Et puis je vais vous dire, le reste de force que l'on avait ne permettait pas de grandes batailles, hein, s'il y avait eu cas. Quand je suis arrivé de Mauthausen, j'étais épuisé à Mauthausen, j'arrive du Revier, mais avec les idées de la résistance, moi je ne travaillerai pas pour les Allemands, puis je garderai la tête haute. J'arrive dans le tunnel. Le tunnel, c'était pour faire la voûte du béton à passer. Moi, je m'assieds. Ah, j'avais fait les maquis en France. Hein. La radio résistait aux Allemands, je l'avais dans la tête. Je m'assieds, il y a un type qui me regarde, c'était un capot polonais. Je le regarde, il me regarde, ça dure un bout de temps, puis d'un coup, paf, une de ses paires de baffes. Je crois qu'il m'aurait fait 10 fois tourner sur moi-même. Je m'en souviendrai, mais j'aurais pas été capable. J'ai du mal à me relever, puis j'ai fait comme s'il n'était rien arrivé. Quelques mois après, je me trouve comme par hasard à bavarder avec lui pour aller d'un point du tunnel à l'autre. Il s'appelait Yavotsky. Il n'y a pas beaucoup de noms dont je me souvienne. Yavotsky me dit, d'où j'avais une faussité blanchée. Il me fait tout blanchette. Et puis, Youden, tu es juif. Oh, je ris, un grand éclat de rire. Je lui dis, non, je suis communiste. Et il me parle en allemand. Alors, ça me dépasse et je rencontre un autre jeune communiste qui s'appelait Chabrerie. Chabrerie, je lui dis, tiens, explique-lui en allemand, toi qui le parles, pourquoi je suis communiste et je laisse se déberder à tous les deux. On rejoint le premier groupe, le groupe qui allait d'un endroit à l'autre, c'était du béton, on allait à un endroit où on passait de la terrasse. Je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à chanter, eux en polonais et moi en français, la même chanson. Et en plus, c'était très beau. Ça créait une condition tout à fait exceptionnelle. Puis un moment après, Yavotsky vient me voir et puis il me dit, Tu as de la chance d'être tombé sur moi. Hein. Quand je t'ai donné ma gifle, tu m'en excuseras. Mais ça aurait été un autre. J'avais compris. Il m'avait donné la paire de gifles parce que un capot, comme il l'était, ne pouvait pas accepter de fermer les yeux comme ça. Et il s'en est excusé par la suite. Et celui-là, c'est une leçon. J'essaye de vous mettre dans les réalités de ce monde très, très disparate, où toutes les nationalités, les couches sociales. Et quelques temps après, Chabrerie, je me retrouve avec lui. Je lui fais, mais dis donc, t'es pas juif, toi, monsieur, si. Il était aussi juif, mais sous une fausse identité.
Paul diminua de moitié les rations journalières des autres prisonniers, et tous ceux qui étaient malades ou affaiblis furent gazés. Cette chambre à gaz était située au château de Hartheim, à 10 km de Linz. Près de 1 500 000 prisonniers y furent gazés. À Mauthausen, tous les prisonniers gazés étaient enregistrés comme morts de cause naturelle.
Il convient de préciser que dans certaines parties de sa déposition, Franz Zierreis minimise ou au contraire exagère certains aspects des crimes commis par les nazis. Ainsi, lorsque Zierreis affirme que près de 1 500 000 personnes ont été gazées au château de Hartheim, en fait, on estime le nombre de victimes gazées à Hartheim à environ 30 000. Par contre, Zierreis minimise le nombre de prisonniers tués à Mauthausen. Il parle de 65 000 morts, alors qu'on estime le nombre de victimes à minimum 120 000 morts et plus probablement 150 000.
Himmler ordonna un jour de charger une pierre de 45 kg sur le dos d'un homme et de le faire courir jusqu'à ce qu'il tombe mort. Cette méthode s'étant montrée efficace, Himmler ordonna de créer une compagnie disciplinaire utilisant ce genre de punition. Les prisonniers devaient soulever de lourdes pierres jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Ils étaient exécutés dès qu'ils s'effondraient et on écrivait ensuite dans les registres « tués lors d'une tentative d'évasion ». D'autres prisonniers étaient poussés vers l'enceinte barbelée électrifiée. D'autres encore ont été littéralement déchirés en morceaux par Lord, le chien du commandant Bachmeyer. Le 30 avril, 33 prisonniers ont été rassemblés dans la cour du camp. L'Oberscharfführer SS Niedermeyer et l'agent de la Gestapo Polaska les y ont ensuite littéralement tirés comme des lapins. En tout et pour tout, et à ma connaissance, 65 000 prisonniers ont été assassinés à Mauthausen. Dans la plupart des cas, j'ai pris part à ces meurtres. Je me joignais régulièrement aux exécutions et utilisais alors une arme de petit calibre. Les gardes SS s'entraînaient au tir en utilisant des cibles vivantes.
Au camp de Mauthausen, le Revier était le nom donné au lieu qui faisait office d'infirmerie. L'origine de ce terme reste ambiguë. Il s'agirait d'un terme de chasse ou bien d'un lieu où l'on prodiguait des soins aux animaux. Il n'était pas rare de voir des cadavres amoncelés à l'entrée du Revier.
À Mauthausen, c'était abominable. Je serais mort de faim au Revier parce que j'ai cru que j'allais manger au Revier, mais ça sentait mauvais. Les rutabagas desséchés, c'était infect. Quand j'étais arrivé, j'ai cru qu'ils servaient des épinards. J'ai dit, je vais arriver à manger parce que je ne mangeais pas. Je souffrais d'infections aux oreilles, le nez, les yeux. Je ne pouvais pas manger. Et le matin, c'était de la flotte. Avec une rondelle, un morceau de pain. Alors, mis une espèce de soupe. Le soir, un morceau de pain avec une rondelle de saucisson. C'était réellement des conditions pour mourir de faim. Au Leubel Pass, c'était pas beaucoup plus, mais c'était plus. Et dur. J'ai vu des squelettes vivants. Hein. Des squelettes vivants, comme pour rétablir son équilibre. On a parlé d'une journée en déportation, une journée au Revier. Je vais vous raconter ça quand même, pour vous montrer un peu ce qu'est l'horreur. L'horreur inutile. L'horreur du sadisme. L'horreur du goût de la souffrance de l'autre. Je logeais à côté des chiottes. 40, j'avais la dysenterie, hein, certainement, 40 fois, parce qu'on va employer les mots qui reviennent, j'avais la chiasse. 40 fois par jour. Et deux Russes qui me portaient, deux Soviétiques qui me portaient, un de ce qui était Leningrad à l'époque et l'autre un Ukrainien. Mais il y avait ceux qui venaient du bout de la pièce, qui était presque du bout du bloc, qui avait presque de la longueur jusqu'à la haie là-bas, avec la dysenterie, ne pouvant à peine marcher, les chiottes fermées. La dysenterie, c'est pressant. Alors, les chiottes sont ouvertes, c'est annoncé. Alors, vous voyez ces dysentériques qui avançaient comme des morts vivants. Et au moment où ils arrivaient, il y en avait deux douzaines qui étaient allées chier dans ces bacs. Et allez, Cindy Betten, tous dans les lits. C'est-à-dire qu'ils revenaient avec leurs coliques dans leur lit. Voilà ce que pouvait être une journée au rivière de Mauthausen. Le lieu de l'infirmerie, le lieu où l'on soigne. Voilà, voilà comment on soignait. Alors, je ne sais pas quelle pouvait être l'efficacité de ce genre de soins pour les malades. Tous les matins, c'était un paquet de morts qui étaient ramassés, jetés dans des charrettes, tirés par des Russes jusqu'au crématoire qui était à peu près par des chemins à 100 mètres d'altitude au-dessus. Au Leubel Pass, il y a eu des évasions. Il y a eu des évasions parce que, d'une part, les Allemands étaient très, très intéressés, l'état-major allemand était très intéressé à ce que le tunnel soit fait. Et d'autre part, il y avait la pression des partisans yougoslaves. Et cette présence des partisans yougoslaves se traduisait aussi jusque parmi les civils yougoslaves qui étaient employés travailler dans le tunnel. Alors, il y a eu quelques évasions. Il y a eu quelques évasions. Il y avait deux camps, un au nord, un au sud, un en Autriche, un en Yougoslavie. Au nord, les partisans, pas de rapport. Au sud, la pression des partisans, grande, à 2 kilomètres de différence. Alors, les tentatives du nord, quasiment impossibles. Le sud, davantage possible. Et il y en a eu deux très spectaculaires. Il y a eu un groupe de 4 ouvriers électriciens qui étaient, c'est drôle à la fois dans cette atmosphère dramatique, il y avait des côtés amusants. Ce qui s'était passé, c'est que les SS les accompagnaient dans la montagne pour entretenir les lignes électriques avec un chien. Mais le chien s'était parfaitement adapté aux déportés, si bien qu'il n'y avait plus que les SS. Et un jour, les gars ont surpris les SS, ils les ont assommés, les chiens n'ont rien dit, n'ont rien fait. Puis ils se sont enfuis, ils ont rejoint les partisans yougoslaves. Les droits communs qui étaient dans le camp, les caïds, les capots et les chefs de bloc, l'avaient reçu comme un des leurs. Et tout de suite, il n'était pas des plus malheureux. Et un samedi, dans la nuit, une grande agitation chez les capots et à un certain moment, le passage de SS venant du sud vers le nord. Puis brutalement, on nous fait sortir du travail plus tôt que d'habitude, avec matraquage à la sortie du tunnel. C'était parce que, on l'a su plus tard, ce droit commun qui était arrivé récemment n'avait pas du tout envie de rester là. Il s'était évadé, c'était un samedi soir, on ne travaillait pas le dimanche. Tout le dimanche, on s'était réjoui de son succès, parce qu'après tout, quelqu'un qui retrouve la liberté, ça nous faisait plaisir. Et le lundi soir, où on était de jour, parce que c'était la semaine qui suivait, au lieu de nous répartir dans les blocs en rentrant dans le camp, on nous a fait aller sur la place d'appel, et tout de suite après avoir franchi la porte, nous avions à notre droite, ce malheureux type qui avait été repris, complètement sans, tenant à peine debout. Il n'avait pas d'idéal de résistance et d'hostilité à l'égard des nazis. Il n'avait pas essayé de regagner le côté yougoslave et les partisans. Il avait commencé par aller attaquer une ferme pour se faire le moyen de vivre. Il s'est fait reprendre comme ça. Alors là, ça va vous illustrer un côté de la vie au camp. Une fois que l'ensemble des déportés présents, à la fois ceux qui rentraient du travail, mais aussi ceux qui devaient partir dans le moment, ont été rassemblés sur la place d'appel, le commandant du camp du Sud est venu, et nous a dit, voilà, ce qui arrive quand on veut s'évader du Holbeipass. Et bien sûr, il va, et c'est ce qui lui est arrivé, il va rentrer à Mauthausen où il sera pendu tout de suite. Et ils nous disent, sachez bien que votre camarade Chaffin ne verra plus le ciel de France. Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? On le saura plus tard. Mais en attendant, le droit commun qui avait été repris a été mis sur une espèce de dique sur lequel on coupe le bois, voyez-vous, il a été mis à... Il s'est appuyé dessus et il a été 40 coups de schlag sur les fesses. Et ça, c'est terrible, ça brûle, ça ensanglante. Et il doit les compter. Et au bout du 20e, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien, il s'est effondré, bien sûr. Puis alors, il y a des choses horribles. Il y a parmi les droits communs, qui étaient apparemment ses copains, il y en a un qui était roux, alors on l'appelait Aroukine. Il a fait du zèle pour montrer au SS qu'il était quelqu'un de bien attaché à sa tâche de prisonnier, mais de droit commun. Il est venu lui donner un coup de pied sur la figure. Voilà les choses laides. Et à l'inverse, quand tout ça a été réglé, il nous a fallu suivre le sort de notre camarade Chaffin. Qu'est-ce qui lui était arrivé à lui ? La journée du lundi, on était tellement heureux, et lui en particulier. Chaffin était un énorme gaillard, un étudiant de Dijon. Il était boxeur amateur et une tête solide. Et il a perdu un peu le sens de la mesure quand dans le tunnel en train de travailler, un capot civil, celui-là, il lui dit « Mais tu ne travailles pas, toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Parce qu'il était heureux de ne pas travailler. Il lui a dit « Moi, je travaillerai, mais sous le ciel de mon pays. » Et c'est pour ça que le commandant du camp est venu dire « Il ne verra plus le ciel de son pays. » Parce que le capot civil, qui était un fasciste en la circonstance, lui avait raconté l'affaire. Alors pendant matin, midi, soir, on s'est forcé d'apporter à manger à Chaffin et de le protéger parce que, sachez qu'il était ce qu'on appelle strafe commando, c'est-à-dire il avait un point rouge sur le cœur, un point rouge à la cuisse, et la tradition voulait que les SS l'incitent à sortir des rangs et de la du cercle des sentinelles. Une fois qu'il avait passé à une des sentinelles, il était considéré comme fugitif et il tirait dessus. Et on s'attendait à ce que ça arrive à Chaffin. En attendant, chaque jour, on allait lui porter davantage une partie, chacun de nous, une partie de notre soupe pour qu'il mange mieux. On le voyait aux chiottes, c'est là qu'on se rencontrait. Et on lui apportait notre soutien. Et puis d'un seul coup, ça s'est calmé. Ça n'a pas duré, cette comédie. Alors ça, on l'a su exactement après la guerre. À la fin, quand on s'est retrouvé chez les partisans yougoslaves, le commandant du camp SS a vu sur sa table un papier disant que les partisans savaient qu'ils étaient au courant de ce qui se passait dans le camp et qu'il répondait, lui personnellement, de la vie de Chaffin. C'était une belle affaire. Et le même jour, ou le lendemain, je ne me souviens plus, une balle a traversé le pare-brise de la voiture du commandant qui revenait du village à 14 km de là. Il remontait, une balle a traversé son pare-brise. Et c'est comme ça que Chaffin n'a pas été exécuté. D'abord la lettre elle a été remise de l'intérieur si jamais les partisans qui l'avaient envoyée. Il y avait des déportés qui avaient comme tâche de faire on appelait ça les Stubedins, qui faisaient l'entretien des locaux SS. Et un déporté avait eu la tâche de déposer cette lettre qui semblait être transmise par les partisans. Et c'est comme ça que la vie intérieure du camp se trouvait à la fois sous la surveillance des partisans et de la vie intérieure de la résistance. Comment les partisans avaient-ils les informations sur ce qui se passe, parce qu'ils les avaient, sur ce qui se passait dans le camp? Il y avait un SS qu'on appelait Kekete. Pourquoi Kekete? Parce que Kekete était un Slovène qui apprenait quelques mots de français et pour qui c'était le bonheur quand on se trouvait dehors, en particulier à côté de lui, parce qu'on avait la paix. Et Kekete, parce que il disait toujours avec les Français, Kekete, voulez-vous baiser mademoiselle, voyez-vous, des trucs comme ça. Ça paraissait stupide, mais c'était beaucoup de marques de sympathie. Et effectivement, il était fiancé à une jeune Slovène. Il était lui-même Slovène. Et cette jeune Slovène était chez les partisans. Et c'est comme ça que il était la liaison avec la déportation intérieure. Et c'est lui qui avait fait savoir qu'il se passait ce qui se passait et qui a fait que le commandant SS a failli prendre... Enfin, ils ne l'ont pas tiré dessus, ils lui ont donné un avertissement.
Paul m'a envoyé 6000 femmes et enfants qui avaient voyagé dans des wagons ouverts pendant plus de 10 jours, par un temps glacial et sans recevoir aucune nourriture. On m'a ordonné d'envoyer les enfants ailleurs. Je crois qu'ils sont tous morts. Suite à cela, je suis devenu très nerveux. Sur ordre de Berlin, 2500 prisonniers provenant d'Auschwitz ont été plongés dans de l'eau chaude, puis par temps très froid, ont été forcés de rester nus en plein air jusqu'à ce qu'ils en meurent. Le Gauleiter Eygruber n'a jamais envoyé de nourriture. Au contraire, il a ordonné que 50% des rations destinées aux prisonniers soient distribuées à la population civile. Glucks a ordonné que les prisonniers travaillant au crématoire soient relevés toutes les 3 semaines et immédiatement exécutés d'une balle dans la nuque parce qu'ils en savaient trop. Peu après, il a été ordonné que tous les médecins et infirmiers soient envoyés dans un camp de travail afin d'y être exécutés. Paul, accompagné de nombreuses femmes, organisait des banquets et des souleries dans une villa. Les prisonniers qui travaillaient dans cette villa ont été accusés de vol et transférés à Mauthausen avec l'ordre suivant « Destruction ». La véritable raison était qu'ils en savaient trop.
Au Leubel Pass, il y avait un intérêt stratégique à faire que les gens puissent retourner au travail. Avec les conditions faites par des SS. Mais il faut comprendre une chose, c'est que d'abord c'était la dernière année de la guerre, les choses avaient un peu changé, surtout les derniers mois. Les SS c'était une pour vous faire comprendre d'une certaine manière, disons que c'était une entreprise de travail temporaire. C'est-à-dire, j'ai horreur des entreprises de travail temporaire. Cette entreprise, c'était quoi? Ces types-là avaient des millions de gens à leur service qu'ils louaient, qu'ils vendaient à des entreprises allemandes pour des rondelles de radis. Et quelquefois, on pressait la mort selon les endroits, on pressait l'avenue de la mort pour remplacer par un convoi. Mais là, l'intérêt stratégique du tunnel faisait que... il fallait entretenir pour que les gens puissent revenir travailler. On ménageait pour qu'ils ne meurent pas trop vite. Il y a eu des convois qui ont, en novembre 1944 encore, il y en a qui ont été retournés à Auschwitz, ou de Mauthausen et de Mauthausen à Auschwitz.
Le Reichsminister Himmler et l'Obergruppenführer SS Kaltenbrunner m'ont ordonné de tuer tous les prisonniers sans exception au cas où la ligne de front s'approcherait de Mauthausen. J'avais reçu l'ordre de Berlin de détruire Mauthausen et Gussen, prisonniers inclus. Tous les prisonniers devaient être poussés dans une mine de Gussen. On devait ensuite faire sauter la mine à l'aide d'une forte charge explosive. Cette opération devait être faite par les Obergruppenführer Wolfram et Ackermann. C'est Paul qui a ordonné cela.
On était 100 et quelques à avoir séjourné du mois de la libération jusqu'au 20 juin, presque jusqu'au 18 juin en Yougoslavie. Et on avait un moral qui n'était pas celui de ceux que l'on libère et qui reviennent abattus. Mais je crois qu'on avait vraiment un moral de vainqueur. Alors ça a un peu surpris quand on a débarqué à la gare de l'Est. On voyait des gens effondrés en train d'attendre les leurs. Et nous, on est arrivés, je ne dirais pas comme des gens joyeux, ce n'est pas vrai. Mais bien debout et chantant des chants révolutionnaires, des chants patriotiques, comme des soldats organisés. Et je n'ai pas le goût du tout de l'armée, mais à cette époque-là, j'étais très heureux de me sentir soldat pour cette période-là. Ben, vous dire que dans nos familles, c'était bouleversant, ben oui, c'est vrai, c'est comme ça.
J'ai vu, il y a de ça quelques années, des copains de déportation qui étaient avec moi dire « Ah, moi, j'ai tout oublié. » Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'ultérieurement, si tu veux, c'est un petit peu comme des bouteillons, là, où on charge, on gonfle, pour que ça disparaisse. Mais il y a un moment où ça finit par éclater. Ça, j'en suis convaincu. Celui qui aura voulu dire « Moi, j'ai tout oublié », il y a un moment où le sas finit par casser tellement la puissance de cette période de notre vie est lourde de sens, lourde de trucs atroces.
Jensk tuait les prisonniers de la manière suivante. Alors que la température extérieure était de moins 12 degrés, il forçait les prisonniers à se baigner puis les faisait se tenir nus, en plein air, jusqu'à ce qu'ils meurent. Le docteur Kaiswetter tuait les prisonniers par injection d'essence. L'Untersturmführer, docteur Richter, opérait des prisonniers quel que soit leur état, malade ou en bonne santé, et leur enlevait des morceaux de cerveau, causant ainsi leur mort. Ceci fut fait à environ 1000 prisonniers. L'Obergruppenführer SS Paul a envoyé les malades et les prisonniers épuisés dans les bois et les y a laissés mourir de faim. Ces prisonniers essayèrent de manger de l'herbe afin de survivre, mais tous sont morts.
Franz Zerais mourut peu après cette déposition.
Comment il se faisait que des individus pouvaient être opprimés, empêcher le plaisir de l'autre et prendre leur plaisir là-dedans. Alors, cette manière de vivre fait que j'ai une compréhension peut-être plus équilibrée maintenant de ce qu'a été la déportation et de ce qu'elle a eu de contraire à la vie en définitive. J'ai aucun droit au pardon, moi je ne suis pas ni un dieu, ni un demi-dieu, ni un quart de dieu. Je suis un homme ordinaire qui entend vivre le mieux possible, et quel pardon. J'ai eu l'occasion moi de faire un scandale parce qu'il y avait un ancien fasciste français qui était en train, au nom de la vente des antiquités, de revendre Mein Kampf avec une bande. Je lui ai fait un scandale. Alors il y a un type qui est venu derrière, oh oui c'est un chef communiste, ce qui n'est pas vrai, je ne suis pas chef, je suis communiste mais pas chef. Alors aussitôt il a cru qu'il allait me mettre dans la poche, parce que lui, ancien nazi, pensait pouvoir pratiquer un anticommunisme stupide pour justifier de Mein Kampf sur son étalage. Je me suis dit, voilà un type dangereux, c'est un imbécile. Il a peut-être dans son passé de fasciste français participé à des expéditions anti-nazis. Mais je n'irai pas est-ce que je ne suis pas chrétien. Voilà. Le droit au pardon, c'est le chrétien qui le proclame. C'est pas plus mal, peut-être, j'en sais rien, mais c'est pas mon fait.
Moi, j'étais arrêté ici en Dordogne. Eh bien, c'est souvent des miliciens, des fascistes français qui ont assassiné nos camarades. Il y a une chose qu'il faut mettre en tête. Il y a des... dans toutes les couches de population et dans le monde entier, des possibilités de mobiliser encore ce qu'il y a de moins heureux chez l'homme, mais ça ne veut rien dire ce que je viens de dire là. Notre structure est ainsi faite au niveau de l'histoire de notre espèce qu'il y a une part animale de laquelle on peut encore faire remonter des potentialités de violence contre l'autre. Alors il y a ceux qui le font avec beaucoup de science, supérieurement intelligents, il faut vous le dire, mais qui aussi manient l'imbécilité d'une manière abominable. La haine est dangereuse. Les possibilités de haine sont dangereuses, et ceux qui manipulent la haine, c'est avec des propos imbéciles. Et ils sont dangereux. La peur qui fait qu'on ne supporte pas l'autre. L'autre parce qu'il était juif en son temps, mais aujourd'hui c'est parce qu'il est marocain, parce qu'il est noir, parce qu'il est algérien, parce qu'il est l'autre, parce qu'il est turc, parce qu'il est kurde. Donc c'est pour vous dire à quel point la bêtise est mise en œuvre pour montrer l'autre, et des périgourdins ici, c'était leur cas quand ils étaient en Allemagne, comme moi qui étais juif mais pas connu comme tel, eh bien, était cet autre insupportable qu'il fallait détruire pour les nazis à l'époque. Donc aujourd'hui, ce qu'on pourrait appeler le danger nazi, c'est les possibilités qu'il y a d'exploiter nos ressources de brutalité, entre autres au niveau de l'intolérance, alors que la réalité d'une société humaine, c'est de dire, ben oui, l'autre n'est pas comme moi et moi je suis pas comme l'autre. Et chacun a le droit de vivre. Comment vivre le mieux possible avec l'autre? Ou bien, tout simplement, je n'ai pas de ce qu'on appellera d'atome crochu, il vit ailleurs et moi ici. C'est tout ça. Mais accepter que chacun doit vivre avec l'autre, c'est ça le problème. Il faut faire attention aux clichés concernant un vague nazisme ailleurs. C'est un petit peu en nous qu'il y a la ressource. On sait le dominer sur chacun, on s'en sépare et à ce moment-là, on se regroupe pour proclamer la nécessité de la fraternité, de la tolérance, de l'acceptation de la différence.
Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre. L'héritière de la première. Le destin bascule. C'est un espoir. Regarde ton peuple d'ombre.
Ce que je fais aujourd'hui, si je le fais avec plaisir, c'est pas pour raconter la laideur, c'est pour faire que dans vos consciences, il y ait quelque chose qui aille à maîtriser ce qu'on a de plus animal. Ça, c'est l'étude de la préhistoire qui m'a amené à cette réflexion. Nous sommes des animaux, nous sommes des primates, c'est-à-dire nous sommes de la même famille que les singes. Ça, c'est clair, c'est connu. C'est depuis plus d'un siècle, c'est bien connu. Et cette famille de singes a une différence considérable, la nôtre, c'est d'avoir une conscience et des possibilités de comportement autonome illimité, c'est-à-dire la liberté promise à l'homme par ses structures de cerveau, les différencie totalement des autres espèces d'animaux supérieurs, dont les singes. Et cette capacité d'autonomie et de liberté, elle s'ouvre sous deux voies. Celle que le sadisme, la culture du meurtre de l'autre, pour le dominer, ou inversement, une culture de la solidarité, de la fraternité, du culte, du bonheur de vivre. Et ce qui veut dire que dans des conditions de crise comme celles que nous vivons, eh bien, le côté animal qui est le nôtre, le côté primate, qui n'est pas totalement évincé dans notre évolution de primate supérieur, peut être mobilisé et retrouver les moyens de tuer l'autre, non pas au niveau d'un, dans un moment de folie, mais au niveau de groupes entiers qui estiment qu'il faut tuer l'autre groupe. Tout cela montre qu'il nous faut être d'une très grande vigilance, et je pense que c'est non pas un devoir moral de ma part, mais tout simplement un devoir d'un être humain qui a eu une expérience avec quelques milliers de survivants, de dire voilà ce dont on a été témoin, nous avons été battus, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on espérait voir une autre société, eh bien non, il y a encore une large place pour ce que Brecht, lorsqu'il avait écrit l'irrésistible ascension d'Arturo Huy, concluait en disant « Homme, attention, le ventre de la bête immonde est encore fécond. » La bête immonde, c'est nous. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes une bête magnifique avec un côté qui est le ventre de la bête immonde qu'il faut apprendre à contrôler, à connaître et à évincer au profit, et c'est beaucoup plus beau, croyez-moi, de la fraternité et de la solidarité.
De Mauthausen à Leubel Pass. Enregistrement de Roger Hassan, réalisé par un groupe d'adolescents, en août 1995, au centre de vacances Pelvésie, en Dordogne. Avec les voix de Luis Mendes et Isabelle Soria. Source de documentation, site web www.jewishken.org. Prise de son, mixage, Luis Mendes.